Le masque et la plume. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si j'ose dire à la maison, c'est-à-dire sur la scène du théâtre de l'Alliance française où ne manque notre public fidèle. Il reviendra, je vous rassure, à la rentrée, mais je sais que pour Xavier c'est un problème, quand il n'a pas ses applaudissements, sa claque, il est parfois un peu triste, donc voilà, virtuellement on t'applaudit. Pour un masque et la plume consacré à l'actualité du cinéma, un cinéma encore en DVD, Blu-ray et VOD, avant la réouverture des salles. Ce sera, vous le savez, le 22 juin. Fini donc le téléphone. Autour de moi, en chair et en os, je suis ravi, Camille Nevers de Libération. Bonsoir. Pierre Murat, Pierrot, que je n'ai pas vu depuis quelques semaines, de Télérama.fr. Mais il avait des problèmes avec son téléphone, il ne pouvait pas nous rejoindre quand on faisait l'émission. À distance, Xavier, le herpeur, le fidèle Xavier de 7ème Obsession et d'une heure en série tous les samedis soirs sur Inter. Michel Simon, Michael Simon, toujours de Positif, Positif qui fait la une de son nouveau numéro de juin sur Konchalovsky, sur Woody Allen bien sûr, et avec un dossier sur la justice et les procès. On parle de deux nouveautés sorties directement en VOD. C'est Technoboss et c'est Nuestras Madres, Caméra d'Or l'an passé à Cannes. Et deux films restaurés, remasterisés, Les traits coupantes dans de la mer de Spielberg. Le Corbeau de Clouseau, une rareté que je suis heureux d'avoir fait découvrir même à Michel Simon, qui est Secret People, de Terrell Dickinson, et enfin La profession de foi féministe d'Agnès Varda, l'une chante, l'autre pas. Dans le courrier de la semaine, il pleut des colères d'auditeurs sur les parapluies de Cherbourg. Mon petit Xavier, complètement d'accord avec Nicolas Chalère, qui n'aime pas les parapluies, nous écrit Noël Cavalier. Les voix de Cressel et d'une façon générale, les comédies musicales de Jacques Demy sont insipides et mièvres. Enfin, ajoute Anne et Bernard, quelqu'un qui ose dire que les parapluies de Cherbourg est barbant, inintéressant et surtout ne mérite pas d'être mis au pinacle. Merci monsieur. Bruno Kérouz n'avait jamais vu les parapluies de Cherbourg, mais dit-il à entendre le caprice de Xavier Le Herpeur, je me suis dit que cela en valait le détour. Eh bien, une superbe réalisation, une musique au cordeau qui swing donne un film d'une niaiserie vertigineuse. Désolé, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout au risque de jeter ma télé par la fenêtre. Patrick Savo n'est pas plus tendre. Xavier trouve que les parapluies est un chef-d'œuvre, grand bien lui fasse. Personnellement, je trouve ce film insupportable. Pour JD4, c'est même un nanar intégral, une cucuterie même pas sublime. Et les dialogues chantés sont insupportables en grande partie à cause des acrobaties musicales de Michel Legrand. Mais il y a... Qu'est-ce qu'il y a, Pierrot?
Non, mais ça prouve que le film est génial, parce que je retrouve absolument les critiques qui trouvait ce film absolument mais détestable, pompier.
Enfin, il a eu la Palme
d'Or. C'est pareil, rien n'a changé, c'est formidable.
Il a eu la Palme d'Or.
Seul Sébastien Bost juge que c'est une merveilleuse idée d'avoir inscrit, merci, les parapluies de Cherbourg au masque, avec les tableaux de Cézanne et les chansons de Barbara, nous dit Sébastien Bost. Les films de Demy façonnent ma vie depuis toujours. Dans les parapluies, Demy lit la plus tendre espièglerie au plus pathétique désarroi, comme Barbara savait d'une seule note et d'une brisure de voix nous emporter dans l'émotion pure. Enfin, un joli message que nous adresse Sabrina Bourges, qui est prof documentaliste au collège Lucifort dans le 20e à Paris. J'ai travaillé sur le modèle du masque et la plume avec des élèves du collège et j'ai le plaisir de vous informer que nous avons gagné le premier prix de la meilleure émission de radio, concours organisé par le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Et elle m'envoie effectivement le lien, qui est bref, hein, où des élèves de 6e discutent avec une conviction assez étonnante de E.T. de Spielberg. Sachez donc, ajoute Sabrina Bourges, que la relève des critiques est assurée et que le masque a encore de beaux jours à venir. Un grand merci pour votre émission. Donc voilà, Pierrot, Camille, Xavier, Michel, vous avez des successeuses et successeurs avec ces élèves de 6e du collège Lucifort. Allez, on commence avec l'actualité, ou plutôt les nouveautés. Là, c'est Nuestras Madres, disponible en VOD depuis le 16 juin, le film du Guatémaltèque César Diaz, qui a reçu la Caméra d'Or l'an passé à Cannes, et qui d'ailleurs, à mon humble avis, aurait mérité une sortie en salle. Il fallait attendre juste une semaine. Le film s'ouvre par une scène assez saisissante. C'était Ernesto, un jeune anthropologue de l'Institut médico-légal, qui est joué par Armando Espitia, qui est penché au-dessus d'un squelette. Moi, j'avais l'impression qu'il essayait de le faire parler. Et on est au Guatemala en 2018. En même temps que les militaires responsables de la guerre civile sont jugés, affluent tous ces témoignages de victimes, pour beaucoup d'ailleurs Maya, et des proches des victimes. Et on comprend vite qu'Ernesto ne travaille pas seulement à l'identification des morts, il essaie aussi de comprendre comment, pourquoi son propre père, un guérillero, a été exécuté. Enquête personnelle, donc d'autant plus difficile que c'est sa mère qui est enfermée dans, à la fois dans le silence et la douleur, et qui ne veut pas parler. C'est pour moi d'une sobriété et d'une pudeur exemplaire. C'est court, hein, 1h17. Et c'est, je le rappelle, un premier film, ce qui est quand même assez rare, Xavier.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Peut-être le bémol, c'est sur la sortie salle. J'ai eu le distributeur au téléphone et il m'a expliqué que, au vu de la méconnaissance à ce jour encore de la manière dont on pourrait recevoir le public, vu le nombre de films déjà sortis qui allaient reprendre des salles comme De Gaulle, par exemple, ou La Bonne Épouse, c'était un risque pour lui de sortir Nuestras Madres. Et il avait très très peur que le film passe inaperçu et il l'aime beaucoup, donc il a préféré le mettre en ligne en VOD pour qu'un maximum de personnes le voient, et je pense que c'est pas une mauvaise décision. C'est un grand film, alors évidemment le grand écran lui aurait sied à merveille. Grand film court, mais tant mieux, c'est un film qui était parti pour être un documentaire. C'était le premier projet de César Diaz, qui a fait ses classes dans une école de cinéma belge, qui parle un français absolument magnifique, de scénariste. Il voulait faire un documentaire, et puis la fiction est arrivée, le montage a été compliqué, c'est-à-dire qu'il y a un moment, le sujet lui était tellement personnel à plein de points de vue qu'il sentait bien que les ramifications du scénario lui échappé un tout petit peu, donc il a confié le film à un autre monteur, et il reste cette épure absolument magnifique, parfaite, bouleversante. Ça n'est jamais aride, c'est sec, effectivement, mais c'est, je trouve, d'une justesse sans nom.
Sur une guerre civile dont on ne parle jamais.
Jamais. Il y avait un travail de réhabilitation des mémoires qui lui était effectivement très indispensable dans son projet, et en même temps, c'est un film, effectivement, qui a toujours une ligne presque atonale comme ça, mais sur lequel se greffent beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Il y a des portraits de femmes absolument magnifiques, le titre, hein, Nos Mères. À un moment, le jeune héros se rend dans un village pour essayer de déterrer éventuellement le corps de Matteo, le mari qu'une femme lui a demandé de retrouver. On va découvrir l'histoire de cette femme et de Matteo plus tard. Toujours, il y a cette manière de ramener dans la ramification.
Une seconde, c'est des visages de femmes impassibles.
Impassibles, absolument.
On
voilà.
dirait du marbre,
qui ont avalé leur deuil, mais pas leur douleur, qui sont toujours là, qui se veulent absolument...
Il n'y a pas de larmes.
Non, mais
pas.
Que cet effort de mémoire, indispensable à tout point de vue pour que le pays puisse se relever un tout petit peu, existe. Il y a le personnage de la mer. Non, mais regardez-le, voyez-le, découvrez-le, parce que c'est quand même un grand film de cinéma, même s'il n'est entre guillemets qu'en VOD.
Camille ?
Je trouve que le film est en effet très digne, mais peut-être un petit peu trop digne, un petit peu trop sage, un petit peu trop sur les rails entre le début et la fin, qui est le même plan qui se répète, puisqu'on comprend à la fin quelque chose qu'au début on ne pouvait deviner. Le film va vers la quête de ce personnage principal. Alors il y a des très belles choses, en effet, les portraits de femmes comme ça sur le pas de leur porte dans le village, leurs témoignages, les visages comme ça de purs portraits sont très beaux. Il y a le moment de l'anniversaire où ils chantent l'International. Enfin, il y a des choses comme vraiment. Oui, non, il y a des choses. C'est point par point, il y a des très belles choses. Je trouve qu'il y a des très belles scènes sur des choses à faire, de la terre, du voyage. On est un peu entre Kiarostami et Omer Bayef. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'assez sec, comme chez ces deux-là. Mais en même temps, je trouve que le film a un côté un tout petit peu scolaire, un tout petit peu ce que j'appelle le film festivalier. En même temps, je ne vais pas lui jeter la pierre parce que Guatemala, on fait un film, on espère qu'il sera vu. Donc, on s'applique pour plaire un peu à ce que j'appelle au festival. Donc, mais je trouve que le film est un tout petit peu sur rail, un tout petit peu avec un scénario ultra rodé, et c'est le côté film nécessaire, on peut rien lui reprocher, très digne, et en même temps qui déboîte jamais, qui va vers ses révélations avec les petits twists au fur et à mesure, et à la fin, je le trouve très bien, mais ça me suffit pas en termes de cinéma, en fait.
Pierre,
je suis absolument d'accord avec vous deux.
C'est embêtant quand on fait l'émission, il vaut mieux avoir un...
Eh ben oui, mais je suis d'accord, et en même temps...
D'un côté,
je suis un peu partagé, parce que je suis tout à fait d'accord avec Xavier quand il parle de pudeur, de sensibilité, d'épure, les visages, tout ça, c'est vrai. Et je suis tout à fait d'accord avec Camille en disant, bah, au-delà de cette épure, il y a une espèce de sagesse qui, quelquefois, que j'aimerais un peu vaincre, qu'il se passe un petit quelque chose, que ça bouge un peu plus, que justement que ça soit un tout petit peu moins sage que ça. Mais alors, en plus, il se trouve que moi, j'ai
vu... Vous confondez pas, pardon, mais moi j'aime beaucoup ce film, sagesse et sobriété.
C'est sobre et sage, justement. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, il me semble qu'il faut absolument le voir, ce film, parce que vraiment, ça donne un éclairage sur des événements qu'on connaît pas. Mais en même temps, il y a un autre film, Guatemaltex, pour ça que je le rapproche, qui était sorti il y a quelques mois, dont j'avais parlé ici, qui s'appelait La Chorona, de Jair Bustamante. Pourquoi? Parce que il me semble qu'on peut voir les deux la même soirée, si vous voulez. Parce que là, c'est vraiment un film sur l'intérieur, quoi, ce qui se passe, la quête intérieure, et La Chorona, qu'on peut voir maintenant en DVD et en VOD, eh ben, c'est l'histoire des méchants. C'est-à-dire, dans une villa isolée, il y a des généraux qui ont été des tyrans et qui sont assiégés par la foule. Et je trouve que les deux se complètent formidablement, et en tout cas, les deux, celui-là oui. et La Chorona, donnent un éclairage sur un cinéma qu'on connaît pas, qui est le cinéma du Guatemala.
Et puis, encore une fois, on parle toujours, justement, des dictatures militaires d'Argentine ou du Chili.
Mais oui.
Mais jamais.
Mais voilà, et c'est pour ça que je trouve que les deux films sont extrêmement importants.
Guatemala. Michel.
Oui, non, moi, je dirais, enfin, je suis d'accord avec vous trois, par l'intermédiaire de Pierre, parce que je pense que je suis pas d'accord pour dire que c'est un grand film. Je pense que c'est un beau film. Sur un sujet qui a déjà été traité assez souvent, qui est le rapport entre le collectif et le privé, l'individuel, puisque c'est une nation qui recherche son passé, reconstitue son propre passé, et c'est un homme qui recherche lui aussi son propre passé. Donc tout ça est très beau, et dans cette linéarité, cette sobriété, bravo. En même temps, ce que j'ai trouvé le plus passionnant, c'est les deux portraits de femmes qui complètent évidemment celui du garçon, c'est-à-dire d'une part une vieille paysanne qui recherche son mari assassiné, qui elle est dans la volonté de retrouver le passé, et une mère qui au contraire est embarrassée, et gênée, et garde des secrets, etc., qu'elle ne veut pas dévoiler. Donc ça, c'est très bien. Donc je trouve que c'était vraiment un très bon film. C'est pas du tout le genre de film dont on dit on n'a pas de nouvelles du cinéma guatémaltèque, c'est d'une bonne occasion. Non, c'est beaucoup plus que ça, c'est un très bon film. Je dirais pas non plus que c'est un film immense qui m'a bouleversé stylistiquement comme une grande découverte cinématographique.
Nuestra Madre, c'est donc le film Caméra d'Or de César Diaz. Un film encore qui devait sortir en salle et qui est disponible en VOD depuis le 27 mai, c'est Technoboss de João Nicolau. Si je me trompe, je vous demande de m'excuser, je ne parle pas bien, pour ne pas dire pas du tout portugais. Un film qui tient à la fois de la comédie romantique, de la comédie musicale, sur un thème d'actualité qui est le sort réservé aux seniors dans le monde du travail, avec ce personnage, Luis Rovisco, qui est joué par Miguel Lobo Antunes, je ne sais pas s'il y a un rapport avec l'écrivain, qui est directeur des ventes dans une société de sécurité électronique et qui est à deux doigts de la retraite, et il vit seul avec son chat Napoléon. Il fait comme Murat, il lit des Maigret avant de s'endormir.
Exactement.
Et il se rend en voiture dans un hôtel où il doit remplacer le système de sécurité et où la réceptionniste est une fille avec qui il a eu une liaison, une vie assez banale qu'il réenchante, toujours comme Murat, avec des chansons qu'il invente.
Mais comment ça se fait que tu connais si bien ma vie?
Et un film assez inclassable, un peu loufoque, pour le coup qui est beaucoup plus long que le César Diaz, hein, il dure 1h50, avec en tout cas parfois un peu de l'esprit de ce qu'on pourrait appeler un tati portugais. Pierrot alors?
Eh ben, j'ai trouvé ça pendant trois quarts d'heure, une heure à peu près, très original. Moi, j'aimais bien ce type comme ça, un peu décalé, un peu qui vit une vie absurde, mais qu'il sait absurde, dont il craint l'avenir. Enfin, et puis ce qu'il réussit n'est pas très réussi en même temps.
En France, ça aurait pu être Bakri pour jouer ça.
Oui, il y a Bakri, absolument. Et si ça avait été mis en scène par Black Edwards, on aurait pu peut-être pousser un peu plus au burlesque. Enfin voilà. Mais en même temps, voilà.
Il aurait eu une moins bonne critique si ça avait été fait par Black Edwards.
Oui, peut-être.
Mais
voilà, je trouve que pendant trois quarts d'heure, une heure, mettons, il y a un vrai souci d'originalité, puisque ce type chante, chantonne. Il y a une espèce de comédie musicale à la Jacques Demy. Non, pas du tout à la Jacques Demy, justement, pas du tout à la Jacques Demy, malheureusement. Mais il y a vraiment un effort. Et puis, le problème, peut-être, c'est qu'au bout d'une heure, on sent un peu l'effort et qu'il faut remplir jusqu'au bout avec une histoire un peu cuculapraline. Et donc, c'est un tout petit peu moins fort. Mais pendant une heure, je dois dire que j'ai passé un moment assez délicieux.
Michel,
je n'ai pas vu.
Ah, tu l'as pas vu.
Je l'ai reçu trop tard.
Xavier.
Bah, on va continuer cette émission tiède à l'Abeille Rouge. Je suis donc d'accord avec Pierre Murat. Ça n'a plus aucun intérêt de faire le masque à la plume. Pendant trois quarts d'heure, effectivement, on est intrigué par cette succession de petites séquences, souvent absurdes, cocasses, avec des trouvailles indéniables. À un moment, il se rend chez un vendeur de douches avec une espèce d'immense pommeau comme ça qui est à l'extérieur. Et il y a une scène assez cocasse où il dit au mec, bah, si c'est en extérieur, ne faites pas couler l'eau toute la journée. Mettez un détecteur de voiture pour que l'eau se déclenche au moment où quelqu'un passe, sinon ça ne sert absolument à rien. Donc voilà, il y a des trouvailles. Et puis Pierre a très bien résumé la chose, c'est-à-dire qu'à un moment, l'originalité tue l'originalité, c'est-à-dire qu'il faut remplir, sur la durée d'1h53, et je pense qu'elle est totalement superfétatoire, il faut remplir donc le film de petites trouvailles décalées, drôles, absurdes, cocasses, mélancoliques.
Mais l'acteur est bien, hein.
Mais l'acteur est bien, il y a plein de bonnes idées. Et puis malheureusement, on aimerait que le film fasse 1h10 maximum, parce qu'on aurait pu le raconter de la même manière, en gardant justement cette inventivité, toute cette inspiration qui s'étiole malheureusement et qui s'épuise. Alors c'est en VOD, on peut le regarder, c'est une petite curiosité, c'est vraiment pas un film acheté avec l'eau du bain, mais pour autant, malheureusement, on passe d'un enthousiasme à une certaine déception.
Pour le coup, que ça aurait rempli les salles de cinéma, Camille.
Ça, c'est pas un critère. Il y a des films qui sont faits pour des salles vides.
Il y a des films, un vrai concept.
C'est ce que disait Danette Duras, je crois. Des films de Duras, ouais, que c'était fait pour des salles vides. Et c'est très bien de voir certains films comme les Oliveira dans des salles vides. Je trouve que c'est des moments d'intimité uniques. Mais après, on a ceux qui détestent India Song, y compris au Masque et la Plume. Alors, j'ai pas du tout accroché, voilà. Alors, c'est un petit problème, parce que je sais que Libération a beaucoup défendu le film. J'aimais bien le premier court-métrage de João Nicolaou, je sais pas comment on prononce, qui s'appelait Rapace, où il y avait une fantaisie de comédie musicale, avec des vignettes, quelque chose de très dandy, dans les postures, que je trouvais très chorégraphiées, très bien. Alors, peut-être c'est l'effet du confinement ou du déconfinement, où il y a un moment des films qui vous passent au-dessus, à côté, à travers, je sais pas. Mais le film, c'est pas au bout d'une heure, c'est dès le début, je suis complètement largué, j'entre pas là-dedans. Je trouve ça assez frelaté, assez forcé. Je ris pas. Les chansons au volant de la voiture m'intéressent pas. L'acteur ne m'intéresse. J'ai l'impression de voir une espèce de film un peu de potache artiste qui fait son film d'auteur. Mais enfin voilà, peut-être que le film est très bon et que je suis totalement incapable d'aimer ça à ce moment-ci de 2020, peut-être. Je sais pas.
Technoboss, qui n'est pas un titre très, très portugais, c'est donc signé João Nicolaou. Comment vous diriez-vous?
Ah, moi, je ne risque pas.
Moi, je ne dirais pas.
Pas à l'instant.
Bon, allez, rien de tel avant l'été et les baignades dans la mer que de revoir Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, dont Universal a sorti le 10 juin une édition Blu-ray Collector 45e anniversaire. Je me suis renseigné, en fait, tous les 5 ans, ils en sortent une Collector. Hein. C'était en 75 le deuxième long métrage du jeune, tout jeune Spielberg, puisqu'il avait 28 ans, ouais. Adapté du roman de Peter Benchley et qui fut le plus gros succès de tous les temps, avant d'être détrôné en 77 par...
La guerre des étoiles.
La guerre des étoiles.
On est Titanic,
au jeu des 1000 euros.
Oui, mais alors, jusqu'en 77, c'est Jaws qui détient voilà, le record.
À ceux qui vivraient sur une autre planète, je rappelle quand même vite l'intrigue. Pendant l'été 1974, un requin s'attaque à une jeune baigneuse et le chef de la police locale, joué par Limar Cécile Broy Scheider, va à son tour s'attaquer au tueur malgré les réticences du conseil municipal qui craint de voir fuir les touristes, tout ça à la veille de la fête nationale du 4 juillet. On verra notamment plus loin, mais ça vous le savez tous, à quoi peuvent servir les bouteilles de gaz comprimé. Et on reconnaîtra dès les premières minutes la musique lancino traumatisante de John Williams. Et je vous dirai ce qu'il y a dans les bonus, mais qui sont à peu près les mêmes bonus que dans le collector du 30e, du 25e, du 20e anniversaire. Ça, Michel, combien de fois tu l'as vu, Les Dents de la Mer?
Mais pas tellement. Alors justement, je l'ai revu et j'ai été impressionné par le travail de Spielberg, parce que quand il est sorti, il y avait des cinéastes américains qui apparaissaient comme lui, Scorsese, Coppola, Altman, Malick, Chazbert, qui me paraissaient infiniment plus personnels. Et j'admirais le métier de Spielberg, mais ça ne m'impressionnait pas. Je pense que Spielberg a gagné en vieillissant. Il a fait des films récemment comme Minority Report, comme Lincoln, qui prouvent une maturité qu'il n'avait pas. Là, à l'époque, c'était un très grand technicien qui savait admirablement raconter une histoire sans être davantage que cela. Et je l'ai revu, et peut-être par nostalgie de ce type de cinéma populaire extraordinairement bien fait, j'ai beaucoup aimé le film. En particulier, alors j'ai appris, c'est intéressant, que Paul Newman, Charlton Heston, Lee Marvin ont refusé de jouer dans le film. Spielberg a pris des acteurs beaucoup moins connus, même si Richard Dreyfuss était assez connu, mais Roy Scheider, par exemple, qui est le héros vrai, véritable, qui représente le policier de la petite ville, etc., qui aime pas la mer, qui veut pas se tromper, et qui finalement est le seul à tuer.
Et qui a le courage d'affronter le conseil municipal.
Mais le fait qu'il ait choisi des acteurs comme Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Robert Shaw, qui étaient assez connus, mais pas du tout des super-héros, des superstars, ça donne une crédibilité au film. Alors, en plus, c'était un film catastrophe, comme il y en a eu beaucoup à l'époque, c'était La Tour Infernale, c'était bien d'autres films, Le Tremblement de Terre, etc. Parce que c'est la vieille histoire, et c'est encore valable aujourd'hui, l'Américain a peur et il veut être rassuré. Et il est rassuré grâce à l'Américain moyen, un peu comme dans Le Train sifflera trois fois. C'est-à-dire le type qui se heurte au maire de la ville. Le maire de la ville, c'est très d'actualité avec le coronavirus. Le maire de la ville qui veut faire passer l'économie avant la santé. Donc le film est mené de façon magistrale avec la première partie qui est sur la petite ville et ensuite la deuxième partie, c'est trois hommes en mer. Alors c'est pas du tout épique, c'est pas du tout lyrique, c'est très réaliste. Mais on pense évidemment au Vieil Homme et la Mer, à Moby Dick, sauf que Moby Dick c'est du niveau archétypal. Mais c'est un film extrêmement passionnant.
Pierrot, combien de fois tu l'as vu, toi, ce film?
Ah, pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais moi, je suis pas un fan absolu de Spielberg. Ouais. Non, mais alors moi, alors évidemment, comme dit Michel, il y a deux films. Et le premier, La Ville, enfin, ça, j'avais oublié à quel point c'était drôle, mais involontairement drôle. C'est-à-dire que, d'abord, la musique, maintenant, elle tient pas du tout.
Elle est insupportable, hein.
Insupportable. Ça vaut plus du tout.
Autant dire que Psychose, la musique est insupportable.
Tous les meurtres, j'allais dire, tous les avalages de requins sont traités. Enfin, moi, ça m'a fait tordre de rire, la façon dont il
comme
le
les parapluies
fait.
De Cherbourg.
Ah ben non, mais
qu'est-ce qui t'a fait rire, c'est l'aileron du requin.
Bah oui, enfin il le traîne. Enfin, je me demande s'il n'y a pas quand même de la part de Spielberg une idée quand même derrière la tête de faire un peu sourire avec tout ça. Et alors l'apparition de la mère en voile noire qui a perdu son fils. On va parler du corbeau tout à l'heure. J'ai cru voir une scène du corbeau avec Madame Sylvie qui revenait. C'est exactement ça. C'est grotesque. Et puis la deuxième partie, en effet, où les trois se retrouvent donc à la poursuite du requin blanc. Alors là, c'est très très bien, parce que Spielberg, là, il sait faire. Il y a pas beaucoup de personnages, il y a trois personnages, trois potes, il n'y a pas de femmes, parce que les femmes, il sait pas très bien les peindre.
Mais les femmes, c'est la nature, c'est dangereuse.
Là, j'ai bien compris, Michel. Mais enfin, quand même, il y a donc trois copains qui sont là. Alors, ils chantent, ils chantonnent, ils se saoulent, ils se racontent des blagues, ils luttent contre l'un. Et là, c'est, en effet, le Spielberg efficace, spectaculaire, très très bien, mais qui ne pense pas. Voilà, quand il fait la liste de Schindler, il pense et il sait pas bien. Quand il fait ce film sur les Jeux Olympiques, il pense et c'est pas bien. Là, dans la deuxième partie, il pense pas et c'est très très réussi. Mais la première est une partie de rigolade insensée.
Camille.
J'ai pas vu le film à l'époque, j'étais un peu bébé. Je me souviens en revanche du phénomène, ça, la façon dont les gens disaient. C'est vraiment la naissance de ce qu'on appelle un blockbuster. Je sais pas si le terme existait auparavant, mais Spielberg a inventé cette chose qui est le film populaire grand public qui est au départ une série B, parce qu'il faut quand même se dire que c'était un film de requin. Enfin, vraiment, c'est le genre d'histoire qu'on voyait dans les séries B. Et Spielberg a inventé, avec Lucas, dans d'une autre façon, la série B mise en scène avec des moyens de série A, même si E.T., tout ça, sont encore des films très petits à côté de ce qu'il fera plus tard. Moi, contrairement à Michel Simon, je pense que c'est pas Spielberg qui s'est arrangé, c'est le spectateur face à Spielberg qui s'est amélioré et qui sait mieux l'apprécier qu'avant. D'ailleurs, je vais vous faire une citation, je vous demanderai de deviner qui a écrit « Un imaginaire fascisant, ça se met en scène, assez simplement. Cela consiste à tout filmer de deux points de vue, celui du chasseur et celui du chassé. » Serge Denet avait écrit ça du film dans les cahiers du cinéma.
J'ai pas osé dire une connerie en direct.
Moi aussi, j'ai failli le dire, oui. Voilà. Et alors
il avait attaqué le film sur le côté fascisant.
Ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'ils en avaient dit au masque. à cette époque-là.
C'est ça, c'est intéressant de savoir, en fait,
prospectivement. Qu'est-ce que Jean-Luc Borry est...
Il n'est pas toujours tort, Danet. Hein.
Ah, mais j'ai écrit au Cahier du cinéma, je suis une grande fan de Danet, mais la façon dont il peut se planter sur certains films, sous prétexte que c'est des grands films populaires...
Il se plante pas,
je vois pas en quoi le film est fasciste une seconde. Enfin, non, dans ces cas-là, Moby Dick est fasciste, le cas de Buzzati est fasciste. Enfin, c'est un film assez métaphysique. D'abord, c'est une des plus belles ouvertures que je connaisse du cinéma. Franchement, ce début est sublime. J'ai pas revu le film en entier.
Ah, tu vas jusqu'à sublime, toi.
Ah, j'adore. Je trouve que c'est vraiment magistral.
Quel est le début, déjà?
C'est la scène avec les hippies qui fument leur joint et puis le couple qui court et elle qui va dans la mer tandis que lui, il est stone et elle se fait happer. Ah.
C'est mauvais comme tout. Enfin,
en termes de mise en scène, c'est limpide. On dirait du meilleur Hitchcock, quoi. Et en effet, la musique, c'est comme John Williams.
Habillé comme ça, filmé comme ça, c'est ridicule.
Voilà. C'est comme Psychose, dont la musique est aussi complètement débile, dans ces cas-là. Bah, c'est la même, hein.
Bernard Herrmann, non, c'est pas du tout débile.
C'est du même ordre, la scie
et
le requin. Ça coupe. En tout cas, c'est un grand film, métaphysique. C'est vrai qu'après, j'ai un souvenir de tout ce qui se passe sur le bateau entre ces trois instances que sont les trois personnages masculins, la nature, la culture et le metteur en scène. La nature, c'est le marin, pêcheur, le chasseur. La culture, c'est le scientifique Richard Dreyfus. Et le metteur en scène, c'est le policier, celui qui observe. Et il y a quelque chose de leur dialogue, parce qu'à ce moment-là, le film parle beaucoup. Enfin, il n'y a plus du tout que de l'action et que du spectaculaire. Il y a des vrais échanges qui pensent, contrairement à ce que Pierre
Dura. Comme dans Capitaine Blood, 30 ans auparavant.
Oui, et alors, c'est un genre, le film
bien
marin.
Sûr,
et effectivement, j'aime beaucoup Buzzati. Voilà, le cas est un grand film sur l'abstraction. Et je pense que Spielberg est un grand cinéaste abstrait pour beaucoup. Duel était un film très abstrait. Et il a fait comme ça beaucoup de choses très épurées. Pas guatémaltèque, mais voilà. Je trouve que sur l'étranger qui est invisible et qui arrive, comme Rush Hider est un étranger qui arrive dans cette ville, et comment le danger est filmé sans le voir. Enfin, Spielberg est un grand cinéaste et déjà au moment des Dents de la Mer.
Xavier.
Moi, je suis un peu réconcilié avec le film que j'avais vu à sa sortie, qui m'a évidemment traumatisé. J'avais 10 ans, je crois, ou 8 ans.
Il paraît que tu ne t'es pas baigné pendant des années.
Alors, si, mais avec une bonbonne de gaffe, donc je coulais. Donc, ce n'était pas très utile. Il a fallu que je renonce à la bonbonne que j'ai laissée donc sur la plage. J'ai pris ma bouée gonflable jusqu'à 21 ans.
Il se fait choper le garçon dans la bouée gonflable.
Mais voilà, j'avais oublié effectivement cette séquence-là. Après, c'est indéniablement, formidablement mis en scène. Le conditionnement du spectateur, il est au sommet d'un art raffiné quand même, de l'angoisse et de l'anxiété. Le regard, le plan subjectif quand même, on voit à travers les yeux du requin plusieurs fois. Donc, non, mais je ne dis pas que ce soit original, mais ça fonctionne. Et ces principes d'accélération et de décélération à l'intérieur du mouvement cinématographique de l'attaque du requin sur tout à la fin, c'est extraordinaire. Malheureusement surligné par la musique de John Williams dans la dernière partie, qui est capable d'envoler lyrique digne de la mélodie du bonheur. Et juste après, effectivement, on a des trucs extrêmement dramatiques. Mais il faut dire que, en termes de montage, effectivement, d'accidenter comme ça l'action, Spielberg est un maître absolu. Moi, ce que j'aime bien dans le film, et je regrette malheureusement qu'il n'appuie pas assez sur cette dimension, c'est qu'elle est quand même très satirique et très critique de l'Amérique. C'est-à-dire qu'on a parlé de ce maire qui est prêt à tout, y compris à envoyer des enfants se faire bouffer par des requins pour ne pas fermer les restaurants et la plage, et qui est un connard fini. Et qui est malheureusement appelle un autre connard qui est aujourd'hui au pouvoir et qui est Donald Trump.
Qui le préfigure très bien.
Qui le préfigure très bien. Et puis, parmi les trois qui sont à la. Je ne vais pas raconter la fin, évidemment. Il y a ce chasseur qui se croit au sommet de la chaîne alimentaire, puisqu'il a des armes, puisqu'il est américain, puisqu'il est blanc, puisqu'il a un bandana dans les cheveux, donc il vient du Vietnam peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc rien ne peut lui résister, même un requin de 70 mètres. Et c'est la bêtise humaine, puisque c'est les anti-héros à la fin, c'est les binocleux, ceux qui viennent des laboratoires, ceux qui doutent, justement, qui vont triompher de la bête. Et ça, c'est assez intéressant. Dans une Amérique, on est en 74 ou 75, si mes souvenirs sont bons. 75, c'est ça. Donc une Amérique très victorieuse, très sûre de ses valeurs. Elles ne sont pas remises en question par aucune crise économique.
Hélas, par aucune
crise raciale.
Il y a eu la guerre au Vietnam.
Oui, il y a eu la guerre. Non, mais ce que j'aime, l'Amérique triomphante, blanche, sûre de son capitalisme et de son consumérisme, elle est très critiquée. Et là, je trouve que malheureusement, la mise en scène de Spielberg n'épouse pas complètement cette dimension-là. Mais c'est une joie de le revoir.
Et c'est les Dents de la Mer, c'est donc Spielberg, et ça se trouve chez Universal. 2 ans après les Dents de la Mer, eh bien sortait en France L'une chante l'autre pas, film donc de 1977 d'Agnès Varda, qu'on trouve en DVD version restaurée chez Arte Vidéo et qui est disponible sur mon cher site de la Cinéthèque, recommandé en l'occurrence par Kléber Mendoza Filho, un film dont la musique est signée François Vertemer, qui retrace entre 62 et 76 l'amitié de deux jeunes femmes, qui tient donc la chronique des droits des femmes avec Pauline, 17 ans, c'est Valérie Mérès, étudiante qui veut quitter sa famille pour devenir chanteuse. Et ce lit d'amitié avec Suzanne, c'est Thérèse Lyotard, dont elle a vu la photo dans une exposition. Suzanne, qui elle a deux enfants, du photographe d'ailleurs, qui est enceinte. Et Pauline va trouver l'argent pour l'aider à avorter. 10 ans plus tard, elle se retrouve, on est en 72, lors du procès de Bobigny, devant lequel Pauline, qui est devenue Pomme, chante pour les droits des femmes. S'il y a, disait Varda à l'époque, s'il y a une lutte racontée dans ce film, qui va aller au-delà évidemment dans le temps, c'est celle pour la contraception, pour la liberté sexuelle ou corporelle des femmes. Dans l'histoire de cette lutte, le procès de Bobigny, qui a abouti, vous savez, à la loi Simone Veil autorisant la contraception, est plus important, disait Agnès Varda, que 68. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez de ce film, Xavier ?
Je vais commencer par la fin. Je crois qu'il y a une des plus belles phrases de l'histoire du cinéma sur lesquelles pratiquement se clôt le film. C'est Thérèse Lyotard qui se rapproche de Valérie Mérès. Et on entend la voix off d'Anne Varda qui dit « Elle regardait Pomme et elle se dit qu'elle avait lutté pour conquérir le bonheur d'être femme. » Et je trouve que c'est une phrase absolument magnifique qui résume parfaitement le film. À quoi est-ce qu'on reconnaît un grand film ? C'est qu'il est dégagé maintenant de son militantisme, hein, même s'il faut encore être très vigilant et continuer de défendre absolument le droit des femmes. Non, mais on est bien d'accord. Mais il y a eu heureusement des choses législatives qui ont marqué cette avancée-là. Il faut continuer évidemment à les sécuriser. Mais ce militantisme-là, il a un petit peu disparu. Mais le film, je le trouve toujours aussi important, aussi intéressant. Je veux dire, ce sont des portraits de femmes absolument magnifiques. Le générique du début, nous sommes chez un photographe, il y a des femmes qui ont posé, des femmes un peu mélancoliques.
D'où vient le personnage de Suzanne?
Voilà, absolument. Valérie Mérès qui rentre, Pomme, qui rentre dans la boutique du photographe, qui dit, mais ces femmes ont l'air tristes comme ça. Elle veut une femme qui est joyeuse, une femme qui est fière. Elle va apprendre à le devenir parce que finalement, c'est une posture qu'il va falloir qu'elle ancre quand même dans la réalité. Et je trouve que le film est extrêmement, oui, fort, beau, militant, féministe, au bon sens du terme. Et puis il y a une très jolie chose, c'est qu'elle le lègue d'une certaine manière à Rosalie Varda, qui est sa fille, qui va jouer dans la toute dernière partie du film, comme s'il y avait de la part de Varda une transmission. Ma fille, on a fait déjà une partie du travail, mais surtout ne croyez pas que ce soit gagné, continue le boulot. Et on sait qu'aujourd'hui Rosalie Varda, eh ben, elle est comme sa maman, une féministe et une cinéphile extraordinaire. Donc ouais, moi j'aime beaucoup beaucoup ce film.
Qu'est-ce que tu en penses, Camille, 50 ans après?
Alors, le problème, c'est que Varda, j'ai pas mal de prévention contre son cinéma. Je suis pas une fan de tous ses films. Celui-là, je l'aimais beaucoup quand je l'avais vu vraiment il y a très très longtemps au cinéma de minuit, de Claude Jean-Philippe, je crois. Enfin, donc, le Ciné-Club. Je l'ai revu. Bon, pour moi, il y a un petit côté toujours opportuniste chez Varda de faire un film féministe pour les nuls, un peu sur le côté, ça y est, c'est l'air du temps, faut faire un film sur le féminisme, même si elle-même l'était, il n'y a pas...
C'est pas très didactique, il y a des vrais personnages,
non,
quand
c'est
même.
Plus, moi, c'est, oui, je reprécise qu'elle a signé le manifeste des 343 demandant... voilà, donc c'est pas juste de l'opportunisme. Mais disons que par rapport à d'autres femmes qui, à l'époque, comme Delphine Seyrig ou Carole Roussopoulos, faisaient vraiment un travail militant en vidéo, Varda fait ce film un peu tardivement, hein, puisqu'il est de 77. Voilà. Et j'adore les deux actrices. C'est-à-dire que je retrouve chez Varda un talent pour le casting et pour le choix des comédiennes. Thérèse Lyotard et Valérie Mérès, qui ont après eu des carrières diverses.
Mais vraiment, n'a pas autant tourné qu'elle l'aurait mérité.
Surtout à la télévision. Oui, elle continue apparemment à faire un peu de théâtre. Enfin, j'adorais Thérèse Lyotard. Comme elle avait eu Corinne Marchand, ou comme elle filmera Sandrine Bonnaire, ou Birkin, et à la fin, elle-même, comme autoportrait de mamie cinéma. Donc, il y a toujours comme ça, chez elle, une espèce de goût du portrait. C'est pour ça que je la vois presque à la place du photographe, du personnage photographe, qui filme ces femmes, qui a un peu tendance à les sadiser sur le côté « mets-toi nu, la vérité nue », et qui les regarde pleurer. Donc il y a un petit côté comme ça, ambivalent, de la posture de Varda qui en profite un petit peu. Mais je trouve quand même qu'il y a un côté suranné, même si le côté hippie l'est de fait, qui fait que chez Varda, il y a toujours un petit côté folklorique, pittoresque, de l'air du temps qui reste. Alors ça a son charme, mais en même temps, ça a ses limites. Je trouve que c'est un peu, hélas, trop le film unique de féministe des années 70, alors qu'il y en a plein d'autres, que c'est l'arbre qui cache la forêt, il me semble un peu comme.
Pierre.
Mais moi, je l'avais pas beaucoup aimé à l'époque. Enfin, je trouvais ça un Varda un peu faible par rapport à Saint-Ouen-y-Loi, par exemple, enfin des trucs comme ça. Et je l'ai revu là avec un immense plaisir. Je trouve que vraiment, ça tient magnifiquement bien. Je trouve que c'est un romanesque formidable, parce que bien sûr, c'est militant, bien sûr. Mais c'est les deux portraits de femmes, la façon dont elles évoluent, la façon dont elles se croisent, la façon dont elles s'aiment, l'escapade de l'une. Moi, je trouve ça absolument magnifique. La seule petite faiblesse, il fallait en trouver une.
Parce que dans la troisième partie, il y a un détour par l'Iran, c'est que c'est...
Voilà.
Il y a plein de...
Oui, absolument. Voilà, voilà. Et, mais qui est drôle, qui est fait avec...
Avec un discours sur le voile que tu ne pourrais plus faire passer aujourd'hui.
Oui, mais qui est pas totalement
idiot. Enfin, le monologue idiot.
Et la seule petite chose, peut-être, c'est que là aussi, le film fait 1h50. Les 20 dernières minutes, on a un peu l'impression dans les 20 dernières minutes que Varda a écrit des chansons pour le groupe, enfin, le groupe Orchidée, et qu'elle est en train de les plaquer un tout petit peu toutes, parce que c'est la tournée, il y a Valérie Mérès fait une tournée, et donc pendant un quart d'heure avant un épilogue absolument sublime, et je rejoins Xavier, il y a 20 minutes de trop. Mais c'est un bonheur, il faut le revoir.
Michel.
Oui, d'abord, j'adore Varda et j'avais beaucoup aimé ce film. J'avais peur qu'il ait vieilli parce que justement, je m'imaginais davantage un film de démonstration. Et pas du tout. Et elle le traitait de documentaire utopique. Et c'est ça qui est beau dans le film. C'est-à-dire que je comprends que certaines féministes soient opposées au film parce que elles gomment les contradictions, elles gomment les problèmes, etc. Et ce que je trouve très beau, c'est le titre lui-même.
Elle gomme c'est-à-dire... pas le retentissement du
c'est
procès
plus un film
de Bobigny,
sur les,
hein.
Les non, mères
mais par exemple,
femmes,
tout
en
ce qu'elle dit sur la
c'est
grossesse.
C'est-à-dire
pour elle, la femme, c'est la matrice. La matrice, voilà. C'est l'enfant, c'est le bébé. La grossesse qui revient
oui,
tout le temps
ça.
Chez Varda,
c'est une mère,
qui est
c'est pas
de,
une femme,
au sud dans Les Créatures, c'est Varda. Là. Dans Opéra Mouffe, c'est là. Dans ce film-là aussi, il y a tout de même cette scène hallucinante où l'Iranien décide de rentrer chez lui, elle ne le suit pas, et, mais il prend l'enfant. Elle dit, bon, ben, c'est pas vraiment grave, tu m'en feras un autre. Et donc, il lui fait un deuxième enfant.
C'est voilà. Déjà des familles
mais
recomposées.
Ce que je trouve, très beau, c'est cette alternance. Ce qui est magnifique chez Varda, c'est au fond, l'une chante, l'autre pas. Varda est l'une dans la fiction, l'autre dans le documentaire. Elle est productrice et en même temps, elle est réalisatrice. Elle est triste. Et elle est, en même temps, elle a de l'humour. C'est-à-dire qu'il a tout un nœud de contradiction chez elle qui la rend au-delà, effectivement, de la démonstration.
L'une chante autre pas, c'est Agnès Varda, Arte Vidéo pour le DVD. Cinétech pour le voir en VOD. Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot qui date de 43 ressort en copie restaurée chez Studio Canal. Le film, vous le savez, raconte la manière dont la petite ville provinciale de Saint-Robin est la cible d'un corbeau qui envoie des lettres anonymes. Elle diffame notamment le médecin soupçonné de pratiquer des avortements, on y revient, et d'avoir une liaison adultère, lettres qui mettent la ville évidemment sans dessus-dessous. Film sur la délation, sorti, je le disais, sous l'occupation, et produit par la firme allemande Continental, ce qui vaudra des soucis à Clouzot à la Libération et l'interdiction même, à ce moment-là, du film. Avec Pierre Fresnay dans le rôle du docteur Germain, Ginette Leclerc, Pierre Larquet, Micheline Français, Noël Roquevert, Roger Blin, qui joue un malade, Louis Seignet de la Comédie Française, etc., etc. Qu'en pensez en 2020, Michel?
C'est un chef-d'œuvre. C'est un des très grands films de l'occupation. Alors, on sait que, comme tu l'as dit, que ça a empêché Clouzot de travailler pendant 2 ans. Il y a eu des campagnes scandaleuses contre lui dans la presse communiste, évidemment. Georges Sadoul, texte anonyme, ce qui est pas mal non plus. Anonyme, pas signé de Georges Sadoul contre le film en demandant son interdiction, etc. En disant que le film était sorti en Allemagne et faisait un tabac, ce qui est faux. Le film n'a jamais été montré en Allemagne parce que les Allemands trouvaient que la délation c'est très important et qu'il fallait surtout pas dénoncer la délation. Voilà, donc c'est un film magistral. On y voit toute la cruauté de Clouzot, toute cette méchanceté qu'il a, cette façon, c'est un film noir, cette façon de montrer cette petite société avec des gens qui représentent la bêtise, l'hypocrisie, la violence. Et puis cette fameuse remarque de Pierre Larquet à Pierre Fresnay, qui résume tout le cinéma de Clouzot. Vous croyez que les gens sont tous bons ou tous mauvais? Vous croyez que le bien, c'est la lumière et que l'ombre, c'est le mal? Mais où est l'ombre? Où est la lumière? Pendant qu'il y a une lampe qui passe devant eux et qui passe de l'obscurité à la lumière. Démonstration magistrale de Clouzot que la vérité est très difficile à cerner. Donc je pense que c'est un film absolument capital, certainement dans l'histoire du cinéma français, sous cette occupation, où au contraire, c'était très courageux d'attaquer la délation.
Enfin, il y avait aussi des attaques contre le film produit par la Continental. Hein.
Mais bien sûr, bien sûr, il peut avoir regretté d'avoir travaillé pour la Continental, mais n'empêche que la Continental, contrairement aux ordres de Goebbels, qui voulait des divertissements futiles, la Continental a fait des films comme ce film-là, qui était tout de même extrêmement courageux, parce qu'il dénonçait les gens qui soutenaient Hitler, qui soutenaient la délation.
Pierre.
Ben, c'est un film qui est magnifique. Mais c'est évidemment, il faut aimer la conception de Clouzot, qui est évidemment... les rousseauistes peuvent pas aimer Clouzot. Pour Rousseau, l'homme est bon et par nature et la société le corrompt. Pour Clouzot, c'est absolument l'inverse, parce que tout le monde ment. Tout le monde a tentation d'écrire des lettres anonymes. Il y a une scène absolument magnifique avec une petite fille dans une cour de récréation. Il y a Pierre Frenet qui arrive en disant « T'as pas vu hein, une lettre tombée ?» Et je dis « Non, monsieur, il y avait eu personne. » Et après, on s'aperçoit qu'elle a caché la lettre. Même la petite fille, qui est censée représenter l'enfance, la pureté de l'enfance, ment. Puis il y a le personnage absolument magnifique de Ginette Leclerc. C'est elle, quand même, qui dit à Pierre Frenet, à un moment donné, « Tu es lâche, tu es faible, de nous deux, c'est toi la grue. » Il y a une espèce de force dans le personnage de cette femme. Et à un moment donné, elle lui dit aussi « Vous êtes ce qu'il y a de plus terne et de plus étranger à la vie. » Et lui dit quoi, un crétin ? Il dit « Oh non, un bourgeois, fait-elle. »
C'est la meilleure phrase.
Absolument sublime, cette façon de voir. Et il y a eu un truc qui m'a fait rire. On a tellement vu à la télévision ces derniers temps des médecins pérorer, se tromper et tout, que j'ai adoré cette réplique de Pierre Larquet qui arrive là et qui dit « Il n'y a rien de plus ridicule qu'un congrès de médecins, si ce n'est un congrès de psychiatres, bien sûr. » Personne n'écoute personne parler, Dieu merci. Et si on l'écoutait, ce serait une immense partie de rigolade.
Tu as parlé des médecins, mais on a vu aussi beaucoup récemment, pendant le confinement, de lettres de délation.
Absolument.
Qui signalaient aux autorités, souvent municipales, la présence
comme
dans
quoi,
tel ou tel immeuble d'un soignant. Et donc de quelqu'un qui pouvait être dangereux. Donc
quand ça, on dit c'est que les Français n'aiment pas écrire.
C'est une manie qu'on connaît bien dans ce pays. Je te sens moins enthousiaste, Camille. Je vois ça à ton air.
Oui, j'ai l'air... je suis habillée comme un corbeau, ça doit être ça. Je ne suis pas du tout, mais du tout, une admiratrice de Henri-Georges Clouzot. C'est un cinéma, en effet, très noir, comme un certain réalisme psychologique de cinéma de qualité a beaucoup fait de mal au cinéma avant que la nouvelle vague mette un coup de balai là-dedans. C'est toujours le houdonite, hein, avec Henri-Georges Clouzot. Il y a toujours un petit côté qui a fait quoi, qui est le coupable. Moi, ça m'ennuie. Hein. D'émission en émission, je le redis. Mais sur le côté qui est le corbeau et alors bien sûr que là la mécanique est plus intéressante puisque justement tout le monde soupçonne tout le monde qu'il y a la délation
et qu'elle fonctionne parce qu'on se demande vraiment qui les a envoyés.
Oui, enfin moi je me souviens très bien que ça fait 3 fois que je vois le film hein, pour vérifier à chaque fois que c'est vraiment pas un film qui mérite mon admiration. On devine, si on est un petit peu fan de Agatha Christie ou de choses comme ça, on devine assez vite qui c'est. Après, ça n'empêche pas de regarder le film et de voir comment tout le monde est très très noir, tout le monde est mauvais. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai entendu récemment dans un film quelqu'un qui disait oui, c'est très bien de montrer un monde où tout le monde est mauvais, comme ça on prêche pour une sorte de vertu absolue qui serait les hommes sont mauvais et on peut imaginer qu'un souverain bien existe hors l'humanité. Ça fait la morale, quoi. Et je trouve que le film est toujours un scénario plaqué avec une espèce d'efficacité un petit peu sans vie, sans chair, sans nerf. C'est toujours comme ça une efficacité de scénario. C'est d'abord un scénariste, Henri-Georges Clouzot, avec le côté toujours qui a fait quoi, comme dans Les Diaboliques, comme dans Le Cerf de la Peur, avec une espèce de spectaculaire que je trouve d'un expressionnisme un peu mou, avec des choses carrément vulgaire. Moi, c'est vrai que le seul personnage qui m'intéresse vraiment, c'est Ginette Leclerc, avec son pied beau, et les personnages de boiteuses au cinéma, c'est magnifique. Il y a plein de choses qui ont été faites là-dessus. Et bah, son pied beau, on n'en fait rien, ou presque rien. Il y a juste un petit moment au début avec Pierre Frenet d'érotisme. Ouais. Et puis après, dans l'escalier, on en a besoin parce qu'on peut la soupçonner à cause de son pied beau. Et puis c'est tout. Après, on la voit plus marcher, on la voit plus.
Ça a conditionné sa vie.
Enfin, Chabrol doit tout à ce film.
Mais oui, enfin,
J'aime beaucoup Chabrol. Il doit plus à Fritz Lang et à Hitchcock, je pense. Mais non, Clouzot, pour moi, il y a quelque chose. Il n'y a pas de houdonite chez Chabrol. Chabrol, il y a une bourgeoisie.
Mais c'est pas ça l'important, Camille, dans le film. C'est pas du tout houdonite. C'est pas ça.
Il y a quand même quelque chose de l'ordre du scénario. Alors, et les personnages sont des pantins qui servent à démontrer quelque chose du discours du film qui me gêne. Je préfère Les Anges du Péché ou Les Dames du Bois de Boulogne.
Je vais donner l'avis de Xavier parce qu'on n'aura même pas le temps sinon d'évoquer un dernier film.
Très rapidement, moi, c'est un film qui a baigné mon enfance. Xavier. Je ne savais pas Henri-Georges Clouzot qui il était, l'importance qu'il pouvait avoir dans l'histoire du cinéma. C'est un film qui m'a toujours subjugué, qui m'a toujours épaté, effaré, inquiété. J'avais oublié, et pourtant Dieu sait nombre de fois où je l'ai vu, que la première subversion du film, c'est que Pierre Frenet sauve, lors d'accouchements difficiles, les mères et non pas les enfants. Ce qui, en temps de libération, est un crime de lèse-majesté, puisqu'il faut au contraire donner du sang frais à la France. Donc déjà, il s'oppose à cette idée via son personnage. Et effectivement, Pierre Frenet décide de sauver les mères. Donc il est déjà mis au banc de ce petit village, de cette société. Et juste pour terminer, Camille, je suis pas tout à fait d'accord sur la mise en scène. Grand scénariste, mais grand metteur en scène. Il suffit de regarder le dernier des 6 qu'il a scénarisé, mais qu'il n'a pas réalisé, et L'Assassin habite au 21, son premier film, à partir du même romancier qu'il a scénarisé et réalisé, pour voir la différence et l'extraordinaire virtuosité quand même de la mise en scène, oui. Peut-être un peu appuyée mais terriblement efficace, de Henri-Georges Clouzot. Et j'ai oublié Elena Manson. Elena Manson qui est quand même géniale, ah oui, dans le film, Manson, la scène où elle est poursuivie par la foule en délire et où on ne voit personne derrière elle, juste un bruit. C'est un grand moment de cinéma.
Le Corbeau, Henri-Georges Clouzot, chez Studio Canal. Une poignée, mais vraiment une petite poignée de minutes, pour évoquer une curiosité qui sort en DVD chez Dorian Film, qui m'a attiré uniquement à cause de la distribution au début. C'est Secret People, film britannique réalisé par Thorold Dickinson, sorti en 1952 avec, tenez-vous bien, Audrey Hepburn et Serge Reggiani. On est dans l'Europe des années 30, un père qui combat la dictature et sera en effet assassiné, confie ses deux filles, Maria, c'est Valentina Cortez, et Nora, c'est Audrey Hepburn, aux bons soins d'un ami italien qui est réfugié à Londres. 7 ans plus tard, lors d'un week-end à Paris, Maria tombe sur Louis, c'est donc Reggiani, son amoureux français de toujours, qui lui demande de l'aider à traquer le meurtrier de son père. Voilà, vous me dites très rapidement ce que... Tiens, Pierre, vous pensez de cette rareté ?
Ah ben, c'est une rareté, donc je suis ravi de l'avoir vu. J'avais vu de ce metteur en scène qui est peu connu un film qui s'appelait Antise, la première version d'Antise, pas celle de Cukor, mais la première, qui était bien mieux que celle de Cukor. Okay. Là, je suis peut-être un tout petit peu déçu par le scénario, mais il y a de très...
Ah, c'est un peu lourd.
Petit peu lourd, mais de toute façon, il y a Audrey Hepburn. Hein. Alors, d'abord, grâce à toi, Jérôme, j'ai vu un film d'Audrey Hepburn que je ne connaissais pas. Donc, merci, 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 parce que dès qu'elle apparaît, quoi qu'elle fasse, je suis là absolument pantelant. Donc, je suis ravi de l'avoir vu. C'est une curiosité, il faut le voir. C'est peut-être pas un très 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 grand film, mais c'est quand même tout à fait intéressant.
Xavier.
C'est intéressant en termes de scénario parce que c'est un film qui refuse tous les happy ends et toutes les zones d'espoir possibles à l'intérieur du film. Les attentats réussissent. Je vais évidemment pas raconter la fin. Après... On est bien d'accord, Audrey Hepburn plus Serge Reggiani. Je suis à nouveau tombé amoureux de Serge Reggiani pour Forever. Enfin, je veux dire, il est dieu d'un charisme dans un personnage en plus qui va se dévoiler. Voilà.
Et Valentina Cortez.
Alors, oui, je suis moins fan du jeu de Valentina Cortez dans le film. Bon, voilà. Mais je te laisse la défendre, bien évidemment. Je te cède mon temps de parole là-dessus. Après, en termes de mise en scène, ben, c'est un petit peu plan-plan.
Michel.
Non, d'abord, c'est une fois de plus la phrase stupide de Truffaut qui traîne partout, repris par des singes. Le cinéma anglais, contradiction dans les termes, parce qu'on n'arrête pas de découvrir ce cinéma qui a donné tout de même beaucoup de grands cinéastes.
Idée qui se prolonge encore aujourd'hui. Hein,
voilà, ici, ça continue à sévir dans la presse française. Parce qu'à part ça, tout le monde s'en fout dans le monde entier. Voilà, Thorold Dickinson, grande admiration de Tavernier et de Scorsese sur ce cinéaste, peu connu, qui a fait 9 films. Vous avez parlé de Gaslight, un chef-d'œuvre qui s'appelle La Reine de Pique, d'après Pouchkine, chef-d'œuvre absolu. Mais ce film est passionnant parce que il incarne vraiment la problématique du terrorisme. C'est-à-dire cette femme dont le père a été assassiné refuse... qu'un compagnon de son père, qui lui est pour l'action violente, son père était Gandhi, et pour Gandhi, il était pour la non-violence, donc c'est le fameux dilemme Camus contre Sartre. Et le film a été fusillé par la presse d'extrême-gauche parce qu'il prônait la non-violence, et non pas le sang, et donc ça a quasiment terminé la carrière de Thorold Dickinson. C'est un film absolument passionnant. Moi, je trouve que la mise en scène est tout à fait valable. Elle n'est pas exceptionnelle, bien sûr, mais c'est vraiment un très bon film à redécouvrir complètement, même à découvrir.
Quelques mots de Camille.
Ah mais j'ai adoré, en fait. C'est une découverte totale. Merci, Jérôme, parce que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert le film en attendant pas grand-chose. Et autant Le Corbeau est plan-plan, et celui-là, je trouve, il y a quand même un des plus beaux retours en arrière de l'histoire du cinéma. Je suis désolée, le truc à sa fenêtre, où Valentina Cortez raconte à Reggiani ce qui s'est passé 2 heures avant dans la réception avec l'attentat à la bombe, qu'elle se retourne et qu'elle est dans la terrasse. Moi, j'ai dit, hein, quoi, c'est quoi? Et enfin, j'avais jamais vu ça. Enfin, c'est
très à plat en termes de lumière, quand même, Camille. Il n'y a pas beaucoup de relief.
Non, ah, bah, non, si, en termes de mise en scène. Non, il y a un expressionnisme anglais, comme chez Carol Reed.
Pas au Corbeau, c'est tout,
je vois pas le problème. Non, je trouve que Audrey Hepburn, très jeune, les deux sœurs, c'est l'histoire d'un visage. Valentine Cortez, qui change de visage au fur et à mesure, qui est d'abord jeune, puis plus âgée, puis qui change de visage à cause de son côté clandestin, etc. Le film est vraiment très original et très étonnant sur sa narration, son récit. Au début, la résistance, et après, la résistance maléfique comme dans l'Armée des Ombres, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier. Je trouve que c'est vraiment un très très beau film, le plus beau film avec les dents de la mer de notre session, et que c'est dommage qu'on n'ait pas le temps d'en parler un peu plus, parce que vraiment, sur l'histoire d'un visage, et sur la façon dont il s'attarde sur les petits gestes, comme préparer des spaghettis ou allumer une cigarette avec une autre cigarette pendant que les acteurs débitent leur dialogue, ça donne une sorte de vie et de quotidienneté qui est pour moi de l'ordre de la vraie grande mise en scène.
Voilà. Eh bien, cette rareté, c'est donc Secret People de Mr. Dickinson. Ça se trouve en DVD chez Dorian Film. Un conseil pour terminer cette émission commence avec Camille.
Alors, en ces temps troublés, on ne sait plus si c'est par un virus ou par un matamor, président des États-Unis qui fait des mouvements de mâchoire et de menton à la Mussolini, on se rappelle que les émeutes de Détroit de 67 ressemblaient beaucoup à ce qui se passe en ce moment. Il y a donc un film qui est sorti il y a 2 ans, il me semble, qui s'appelle Détroit, de Catherine Bigelow, qui était absolument génial, qui est un des plus beaux films de la décennie. Ah ben, on a le même conseil. Voilà. Et il y a un livre qui vient de sortir sur Catherine Bigelow, très grande cinéaste, femme actuelle, qui fait des films d'hommes, très étrange, et qui donc, par Jérôme Destet, qui est un jeune auteur qui vit à Berlin, et qui a écrit cette première somme, il me semble, sur cette réalisatrice, qui est Catherine Bigelow, chez Rouge Profond. Et je vous conseille, parce que bah, c'est une grande cinéaste et il vaut mieux pas attendre sa mort pour en faire des livres et dire à quel point Détroit est un très grand film sur justement ce que c'est que être noir et subir la violence de la police et du pouvoir en Amérique.
Le conseil de Pierre.
En DVD, un film qui du cru, je vais dire, a du bien, un film avec Charles Bronson. Charles Bronson a tourné quelques bons films, et en voilà un, qui s'appelle Le Bagarreur. C'est le premier film de Walter Hill. Ça se passe dans les années 30. Et c'est sur des combats à main nue. Et c'est tout à fait étonnant. C'est vraiment bien. Et c'est, à la fois très mélancolique. C'est presque du cinéma de John Huston. Voilà. Donc ça s'appelle.
Et comment on le trouve?
On le trouve chez Sidonis, en DVD. Ça vient juste de sortir. Et ça s'appelle Le Bagarreur. C'est date de 1975.
Le conseil de Michel.
Alors, je sais que vous en avez parlé. Tu vas me gronder d'en reparler.
Non, je te gronde pas.
Moi, j'ai lu en 48 heures l'intégralité des 500 et quelques pages de Woody Allen. Soit dit en passant, je trouve un livre merveilleux. Alors, on lui reproche de pas parler assez de ses films. C'est vrai, il les mentionne.
Non, mais on lui reproche de parler trop longuement de l'affaire.
Ah ben non, quand un homme a été quasiment détruit, quand ses films ne peuvent même plus sortir dans son pays d'origine, alors qu'il a été blanchi par la justice, blanchi par les associations de défense de l'enfance, blanchi par les psychiatres, blanchi par tout le monde, il n'y a pas une seule autre personne qui s'est, sauf une femme furieuse d'avoir été abandonnée, qui se jette contre lui, défendue par son fils, Moses, qui a écrit un texte magnifique sur son blog pour défendre son père. Je trouve normal qu'il consacre 100 pages, qui sont d'ailleurs extraordinairement passionnantes, glaçantes et passionnantes. Mais par ailleurs, il nous parle de choses dont il peut parler, c'est-à-dire son enfance, son travail dans les cabarets, l'écriture de ses scénarios, sont effectivement ses problèmes avec Mia Farrow. Mais par contre, si on lit les mémoires des metteurs en scène américains, ils ne parlent pas de leurs films. Lisez Huston, Minnelli, Raoul Walsh, ils ne nous disent rien. C'est aux critiques, aux historiens de parler de leurs films. Il nous parle de ce dont ils peuvent seulement parler, c'est-à-dire des choses personnelles.
Bon, le conseil de Xavier, parce qu'on ne peut pas refaire les émissions chaque fois.
Nous n'étions pas concertés, mais on avait même conseil avec Camille, effectivement, l'excellent livre de Jérôme Destet, Catherine Bigelow. Et je tiens Des mineurs aussi pour un des grands films des 15 dernières années. Donc, une petite série rapide, 3 épisodes. La série a été sélectionnée l'année dernière au Festival de Venise. Ça s'appelle Le Domaine. C'est réalisé par Thiago Guedes. Et c'est l'histoire, alors, Guedes, sans doute, hein, puisque c'est portugais, sur 40 ans, l'histoire d'une exploitation agricole, métaphore du Portugal, évidemment, qui va être secouée à la fois par le régime dictatorial et par la révolution des œillets et par la suite et la continuité politique et sociale du Portugal. 3 épisodes d'1 heure, c'est absolument formidable. Alors, à l'heure à laquelle l'émission est diffusée, ça a déjà été diffusé par Arte, mais comme toujours avec Arte, c'est disponible sur leur site jusqu'à la mi-juillet, donc ne vous privez pas de cette saga de 3 heures qui s'appelle Le Domaine.
Tous ces conseils, y compris celui de Xavier, auquel j'ajoute celui de ne jamais manquer 1 heure en série le samedi soir sur Inter. Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Camille Nevers, Pierre Murat, Xavier Leherpeur et Michel Simon pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Ce soir, à la technique, au théâtre de l'Alliance française, il y avait, et je les remercie, Lionel Kornmann, Sébastien Huel et Charles Serres. La réalisation était signée Xavier Pestugia. La semaine prochaine, on parlera de littérature. Je vous dis donc à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.